Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Des concertations auront lieu en vue de placer 3 départements supplémentaires, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, dans la liste des départements qui connaissent des mesures de freinage renforcées.
16 plus 3 égale 19, l'Aube, la Nièvre et le Rhône pourraient s'ajouter à la liste des départements confinés. Nous irons à Lyon où l'épidémie flambe, les contaminations explosent et les hôpitaux saturent. Un constat valable un peu partout en France, la troisième vague n'épargne personne, pas même les enfants. Faut-il refermer les écoles alors que le virus circule de plus en plus en maternelle et primaire? C'est encore plus inquiétant dans les collèges et lycées. Xavier Bertrand est un homme pressé, le président des Hauts-de-France prend de vitesse ses rivaux à droite, il sera bien candidat à la présidentielle sans passer par la case primaire. Dans ce journal également, la polémique à Strasbourg autour de la construction d'une mosquée turque subventionnée par la ville. Gérald Darmanin accuse la mairie de financer une ingérence étrangère. McDo a-t-il commis une big fraude fiscale? 3 de ses anciens dirigeants sont ce soir en garde à vue. Jusqu'à 1 milliard d'euros auraient échappé au fisc. Et puis il y a du foot en ce moment. France-Ukraine, Cyril de la Morinerie.
Oui, un partout, 57 minutes de jeu. Griezmann a ouvert la marque. Égalisation des Ukrainiens avec un but Presnel Kimpembe contre son camp.
Merci Cyril et à tout de suite. La météo, elle sera moins agréable demain avec le retour d'un ciel gris et menaçant le matin. En revanche, les températures vont grimper, valeurs douces et de saison, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en toute petite hausse, plus 0,03% à 5 947 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview Echo dans 20 minutes. Picard profite de la crise. Les Français se ruent sur les surgelés. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Cathy Collard-Gégère, la PDG de Picard. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le balai gouvernemental est désormais bien rodé. Conseil de défense sanitaire du mercredi matin, compte rendu dans la foulée, suivi des annonces le jeudi soir. Et cette semaine ne fait pas exception, a fortiori, vu les chiffres alarmants de ces derniers jours. 4651 malades du Covid sont ce soir en réanimation. C'est 250 de plus depuis dimanche. À ce rythme, la troisième vague pourrait d'ici 2 ou 3 semaines être pire que la première. Il faut donc réagir. 3 départements supplémentaires devraient passer en mode freinage d'urgence, comme l'a révélé tout à l'heure Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Partout sur le territoire, l'épidémie s'accélère. Dans certains territoires, elle augmente même très fortement. Le 3 mars dernier, ici même, je parlais devant vous de semaines de gros temps à venir. Nous y sommes. Face à cela, face au danger pour les Français, comme pour notre système de santé, nous agissons. À la suite du Conseil de défense et du Conseil des ministres ce matin, des concertations auront lieu cet après-midi en vue de placer 3 départements supplémentaires, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, dans la liste des départements qui connaissent des mesures de freinage renforcées, les fameux 16 départements qui ont été annoncés jeudi dernier.
Gabriel Attal au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudot. 2,4 millions de Français sont donc en sursis ce soir, ceux habitant l'Aubre, la Nièvre et le Rhône, où l'on vous retrouve. Jean-Luc Boujon, l'épidémie s'est emballée à Lyon et sur place, on ne se fait pas trop d'illusions sur ce que va décider l'exécutif.
Non, effectivement, ici, on ne voit pas comment on pourrait échapper à un reconfinement, tout simplement parce que dans le département, les chiffres progressent à une vitesse assez affolante. Le taux d'incidence est ce soir de 386 nouveaux cas pour 100 000 habitants, un taux qui n'était que de 250 il y a à peine un mois, où on avait l'impression de maîtriser la situation. Cela veut dire que le virus progresse très vite et donc qu'il faut prendre des mesures sans tarder, explique le docteur Vincent Rébeillé-Borgelat de l'Union régionale des médecins libéraux.
On est face à un variant anglais qui est largement dominant à plus de 80%. Dans le département, donc il est plus agressif, il touche des sujets plus jeunes et on voit arriver en hospitalisation des sujets qui se dégradent très rapidement, qui passent même carrément du domicile à la réanimation. On ne peut plus attendre. Quand on voit l'évolution de la maladie en Île-de-France, si on ne fait rien, il va se passer exactement la même chose. Plus on attend, plus ça sera catastrophique. Je crois qu'il y a urgence à agir. Probablement un confinement à la mode Île-de-France et peut-être avec des mesures supplémentaires à moyen terme.
Voilà, alors ces mesures supplémentaires, ce pourrait être la fermeture des écoles, car ici aussi, les cas sont plus nombreux qu'avant en milieu scolaire. Évidemment, on n'en est pas là. La décision sera prise et annoncée demain par le gouvernement, qui a chargé le préfet du Rhône de consulter tous les grands élus du département. Pendant ce temps, les hospices civils de Lyon ont annoncé l'ouverture de 15 lits supplémentaires en réanimation. Un service où l'on frôle déjà la saturation. On en est à 97% ce soir.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Si la situation dans le Rhône est suivie de très près, une région inquiète tout particulièrement, l'Île-de-France, où les indicateurs explosent, notamment dans les hôpitaux. Nous n'avions pas connu un nombre d'entrées aussi haut en 24 heures depuis la première vague. Voilà ce qu'a écrit ce matin le directeur de la PHP dans un email envoyé à ses personnels soignants. Et face à cette situation, de plus en plus de médecins demandent au gouvernement de revoir ses mesures de freinage, jugées beaucoup trop légères. Ils exigent un confinement strict comme au printemps dernier. Alors on n'en est pas encore là, mais le gouvernement a bien conscience qu'il faut davantage serrer la vis, d'où cette annonce ce soir de Beauvau. Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont désormais interdits sous peine d'amende, mesure qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Se pose aussi la question des écoles, collèges et lycées. Pour l'heure, l'exécutif maintient sa doctrine. Il faut laisser ouvert, oui, mais jusqu'à quand, Virginie Riva? Plusieurs indicateurs sont inquiétants, notamment dans les écoles maternelles et primaires.
Oui, il y a déjà un premier indicateur, les tests salivaires pratiqués depuis 2 à 3 semaines dans les écoles maternelles et primaires. Ces tests, ils nous donnent une photo à un instant T du nombre de cas positifs d'élèves symptomatiques ou non. Ils sont pratiqués dans des zones où le virus circule particulièrement. Nationalement, on sait que ce taux est de 0,5%. En Île-de-France, il est de 1,37% selon les informations que nous a communiquées l'ARS. C'est donc presque 3 fois plus par rapport au niveau national. Par ailleurs, il y a un autre indicateur qui confirme une augmentation chez les plus petits. C'est le taux d'incidence des 0,10 ans. Là, on parle du nombre de cas positifs sur 100 000 habitants à partir des tests PCR. Ce que nous disent les chiffres officiels, c'est que ce taux a doublé en Île-de-France en l'espace de 2 semaines. Il atteint 275 sur 100 000, un taux jamais atteint dans cette tranche d'âge jusqu'ici. Donc même si les 0,10 ans restent la tranche d'âge dans laquelle le virus circule le moins, on est en train d'atteindre des seuils d'alerte.
Et c'est encore plus alarmant chez les 10-19 ans, Virginie.
Oui, là, sur ces tranches d'âge, on n'a pas de tests salivaires, mais des indicateurs d'incidence basés sur les tests PCR. Dans les Hauts-de-France, on approche de la barre des 500 cas pour 100 000 habitants. Et en Île-de-France, c'est encore plus. On a une incidence de 673 cas pour 100 000 adolescents. C'est le double de la moyenne nationale. Et cette incidence, elle augmente partout sur le territoire national. Ce qui pose la question des demi-jauges au collège. Actuellement, ça n'a été remis en place qu'au lycée depuis lundi.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. La question des écoles est d'ores et déjà tranchée. En Belgique, seules les maternelles resteront ouvertes la semaine prochaine. Primaires, collèges et lycées feront cours à distance. Par ailleurs, les métiers de contact comme les coiffeurs vont à nouveau fermer à partir de ce week-end et les commerces non essentiels ne pourront accueillir des clients que sur rendez-vous. Des restrictions pas toujours bien accueillies par les populations, c'est le cas en Allemagne où Angela Merkel a été obligée de faire machine arrière. La chancelière annule le confinement de 5 jours prévu à Pâques et c'est assez rare pour le souligner, elle a même demandé pardon aux Allemands.
Écoutez le monde changer, Europe Soir. Le 22-22-30.
C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Xavier Bertrand sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2022. Le président de la région Hauts-de-France le confirme dans une interview au Point. L'ancien ministre a décidé de ne pas attendre les élections régionales pour prendre de vitesse les autres ténors de la droite, Mickaël Darmon.
Oui, et également il veut taper fort. Je serai candidat et précise-t-il, je ne participerai pas à une primaire. Je m'adresse directement aux Français. C'est un pavé donc dans la mare, dans cet entretien qui en compte plusieurs. Bertrand prône un changement de régime fondé sur ce qu'il appelle la République des territoires, car le centralisme parisien incarné par Emmanuel Macron, selon lui, a échoué. La pratique macroniste, dit-il, c'est une centralisation et une verticalité qui étouffe et conduit l'État à l'impuissance. Bertrand veut gouverner par référendum pour redonner une dimension gaullienne à un mandat qui sera, dit-il, un mandat unique afin de ne pas se préoccuper de sa réélection. Un programme qui veut parler au peuple de la grande droite, qui va du Rassemblement national jusqu'au Modem. C'est aussi là que Xavier Bertrand doit donc gagner pour pouvoir gagner également, remporter la région des Hauts-de-France, car la roue de l'Élysée passe par le Nord. Xavier Bertrand doit tout d'abord être réélu président de la région pour démontrer à son camp sa capacité à battre le Rassemblement national.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1, Xavier Bertrand, qui fera sa première déclaration en tant que candidat sur notre antenne. Il sera l'invité dimanche à partir de 10h du grand rendez-vous d'Europe 1 CNews, Les Échos. C'est la polémique du jour. Strasbourg accusé de financer une ingérence étrangère. C'est la charge de Gérald Darmanin contre la subvention votée par la mairie écolo de la ville alsacienne. Une somme de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée portée par une association islamique turque. Cette affaire en tout cas soulève plusieurs questions, Arthur Mbaché.
Alors il y a deux questions. Un, est-ce que c'est autorisé de subventionner des cultes? Et deux, qui sont les Turcs qui bâtissent cette fameuse mosquée à Strasbourg? Sur le premier point, il faut rappeler qu'ici, la loi de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas en 1905. L'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Donc, de l'argent public pour une église, pour un temple, une pagode, une mosquée, c'est légal. Alors quand le ministre de l'Intérieur accuse sur Twitter la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian s'étonne.
Je respecte le droit local qui permettent à une municipalité de financer 10% de la construction d'un lieu de culte. C'est ce qu'on fait depuis des décennies. Et donc, voilà, moi, j'entends que Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Est-ce que, du coup, ça signifie qu'il remet en cause le droit local? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement.
L'autre question, c'est qui porte ce projet de mosquée? Une fédération turque, Milli Görüş, à laquelle le ministre de l'Intérieur reproche, je le cite, de défendre l'islam politique et de ne pas avoir signé la toute récente charte des principes de l'islam de France. Donc, à demi-mot, accusation de séparatisme. Si le ministre a des éléments à nous transmettre, ajoute la maire écologiste, qu'il le fasse. En attendant, Gérald Darmanin a chargé la préfète d'attaquer le projet de subvention devant le tribunal administratif.
Affaire à suivre donc. Merci Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Venons-en maintenant à cette question. McDo a-t-il triché sur ses impôts en France? Trois de ses anciens hauts dirigeants sont en garde à vue ce soir. Ils sont cuisinés par les policiers spécialisés dans la lutte contre les infractions fiscales. Tout est parti d'une convention signée entre McDonald's France et la maison mère aux États-Unis. Et à l'arrivée, Gladys Laffitte, beaucoup d'argent se serait évaporé.
Oui, le fisc français espère bien récupérer entre 300 et 600 millions d'euros, voire 1 milliard d'euros selon le Canard enchaîné. De l'argent qui aurait échappé à l'impôt en France car envoyé directement aux États-Unis, au siège du groupe McDonald's, situé dans l'État du Delaware. Précision importante, car il s'agit d'un paradis fiscal. C'est l'un des accords de cette fameuse convention signée entre McDonald's France et la maison mère américaine en 2009, qu'une partie des bénéfices de la filiale française partent directement outre-Atlantique. Des ex-dirigeants vont donc devoir s'expliquer sur le circuit qu'a emprunté cet argent, notamment l'ancien PDG de McDonald's Europe et l'ancien PDG de l'enseigne France. Ils ne sont plus en poste aujourd'hui. De son côté, McDonald's France explique qu'elle a payé tous ses impôts dus à l'État français conformément aux législations en vigueur, mais aussi un impôt sur les sociétés cumulé de plus d'un milliard d'euros en France entre 2009 et 2013. L'enseigne explique aussi qu'elle collabore avec la justice et les autorités compétentes.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. À l'étranger, la Virginie devient le premier État du sud des États-Unis à abolir la peine de mort. C'est officiel depuis ce soir et c'est une immense victoire pour le mouvement abolitionniste vu que la Virginie est l'État qui possède le record d'exécution sur le sol américain. Et puis le sort s'acharne en Australie. Après les inondations catastrophiques dans la région de Sydney, les autorités mettent en garde contre une invasion de mygales fuyant le déluge. Et pas n'importe quelle mygale, l'Atrax robustus, dont le venin est le plus violent au monde. Cette espèce déteste l'humidité, comme le prouvent ces images devenues virales ces derniers jours, montrant ces araignées grimper des clôtures et des bâtiments. On termine avec le foot et ce match que l'on suit en fil rouge ce soir sur Europe 1, match qualificatif pour le Mondial 2022. Les Bleus affrontent en ce moment l'Ukraine au Stade de France où l'on retrouve Cyril de la Morinerie. Cyril, les hommes de Didier Deschamps n'arrivent toujours pas à prendre l'avantage.
Oui, c'est vrai, 20 minutes encore à jouer dans ce match. Les Français avaient très bien démarré cette rencontre avec, dès la 19e minute, un petit bijou, un superbe but d'Antoine Griezmann. Une frappe du gauche enveloppée, pleine lucarne, eh bien, qui donnait l'avantage aux Français. Son 34e but avec l'équipe de France, Antoine Griezmann, qui a donc porté ses coéquipiers jusqu'à là. 56e minute, il faut dire que lors de la première mi-temps, il y a eu quelques occasions françaises, mais ils n'ont pas réussi à convertir donc ces frappes. Et à la 56e minute est arrivé donc ce but contre son camp de Prestel Kimpembe. Au départ, bien, c'est une frappe anodine d'un Ukrainien, Sidorchuk. Et puis finalement, il touche le ballon, Kimpembe, et Lloris est surpris. Et ça fait but donc pour l'Ukraine qui égalise un partout. Les Français essayent tant bien que mal, ils ont la possession de la balle face à cette équipe d'Ukraine. Kylian Mbappé là à l'instant, il y a eu ces changements avec Olivier Giroud et Kingsley Coman qui sont sortis, remplacés par Paul Pogba et par Dembélé qui a des jambes de feu, il va beaucoup mieux avec le Barça. Ils vont essayer, les Français, d'aller marquer ce deuxième but. Didier Deschamps avait rappelé l'importance de remporter cette victoire, enfin ce match, d'avoir ces trois points pour ce début de campagne de qualification. Ensuite, il y aura un voyage au Kazakhstan dimanche prochain et un autre voyage en Bosnie. Voilà, un partout, 70 minutes de jeu au Stade de France entre donc les Bleus et l'Ukraine.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France. Prochain point dans quelques minutes à la fin de cette édition. Toujours en foot, notez que la Fédération s'est résolue aujourd'hui à mettre un terme aux championnats amateurs. Ils était suspendu depuis fin octobre en raison de l'épidémie. La saison 2020-2021 est donc déclarée blanche, sans promotion ni relégation. La météo, Anissa Haddadi, le ciel va se couvrir demain.
Oui, on aura un petit peu plus de nuages, effectivement, Julien. Demain, avec des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Lorraine, un ciel très gris, avec pour le début de journée en Lozère et Saône-et-Loire des brouillards, et puis de la Vendée jusqu'aux Ardennes, en passant par le centre Val-de-Loire et la région parisienne. Là, nous aurons des petites averses demain matin. C'est dans le nord-ouest et le sud-est, finalement, que le soleil se montre le plus généreux en début de journée. Dans l'après-midi, les éclaircies, bonne nouvelle, vont se développer sur une grande partie du pays. Sur les côtes de la Manche, le vent se lève. Sur la Bretagne et le Cotentin, nous aurons là aussi un ciel un petit peu plus couvert. Et toujours un risque d'averse sur le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Les températures, elles se radoucissent demain matin avec beaucoup moins de gelée. Hein. On aura moins 1 degré à Manosque, 2 à Strasbourg, 4 à Rouen et Saint-Étienne, 5 pour Marseille et Bastia, 8 degrés à Paris et Biarritz et 10 pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire et toujours très doux. 12 degrés à Cherbourg, 13 à Brest, 14 à Dijon et Lille, 15 degrés pour Paris et Nice. 16 à 22 degrés sur la moitié sud, avec 16 degrés pour Bordeaux et Clermont-Ferrand, 17 à Bastia, 19 à Lyon et 22 à Nîmes pour la maximale.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamaud de Boursier.com, suivi de l'interview éco. Picard profite de la crise, les Français se ruent sur les surgelés. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Cathy Collard-Gégère, la PDG de Picard. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et comme chaque soir, c'est les infos de la bourse avec Didier Hamaud de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street reste plombé par la nouvelle baisse des valeurs technologiques.
La situation sanitaire internationale continue de plomber l'ambiance, oui, et de semer le doute, hein, surtout sur le rythme de reprise économique mondiale. On a un Dow Jones en baisse de 0,01%, c'est pas grand-chose, 32 420 points, mais effectivement, c'est le Nasdaq qui décroche de plus de 2%, moins 2,01%, 12 961 points. Le message rassurant du patron de la Réserve fédérale américaine sur la résurgence temporaire de l'inflation n'y a rien fait. Les valeurs de technologie baissent nettement, à commencer par Tesla, qui a reperdu près de 5%, moins 4,8%, 630 dollars. Le groupe a déclaré accepter le paiement de ses voitures électriques en Bitcoin. Si ça vous intéresse peut-être.
J'ai pas les moyens.
Bon, on a Apple derrière qui perd 2%, 120 dollars. Microsoft aussi, moins 0,9%. Amazon, moins 1,6%. En fait, tout baisse. Hein. Toutes les valeurs de technologie reculent très nettement. Netflix, moins 2,7%. Intel, moins 2,2%. Il y a quand même une exception. Ce n'est pas une valeur de technologie, c'est une valeur pétrolière. Exxon reprend 2%. Car le baril a rebondi de 6% à 60 dollars, le baril WTI. Il faut dire qu'il y a un porte-conteneur taïwanais qui a échoué et qui s'est bloqué dans le canal de Suez. Ça a un petit peu fait paniquer les opérateurs sur le pétrole aujourd'hui. L'euro pointe sur les 1,18, toujours en berne face au dollar.
Et le trafic est rétabli, je précise, oui, dans le canal de Suez ce soir. La bourse de Paris a terminé stable après trois séances de baisse consécutives.
Oui, alors plus 0,03%, stable, 5 947 points. Le CAC 40, après trois jours de baisse, ça reste quand même très lourd, hein, sur les valeurs les plus sensibles à l'activité économique. On a les groupes industriels en baisse comme Verallia, moins 2,2%, Faurecia, moins 2%, le groupe équipementier automobile. Air Liquide aussi, moins 1,7%, 136 euros. Colas, le groupe routier, moins 1%. Et puis Engie, moins 1,2%. 11,96 €. Là, c'est HSBC qui a dégradé son avis en ne visant plus qu'un cours de 13,60 € sur Engie contre 15,70 € auparavant, malgré les efforts de simplification stratégique du groupe spécialiste de l'énergie décarbonée. Engie en baisse ce soir d'1,2% à la clôture.
Exception du jour, Carrefour s'est distingué après une grosse opération au Brésil.
Plus 2,3%, 15,09 €. Le groupe de distribution va acquérir Grupo Big Brasil, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour environ 1,1 milliard d'euros. Une opération offensive bien accueillie par le marché après l'échec de la tentative de rapprochement avec le Canadien Couche-Tard. C'était il y a quelques semaines, une opération bloquée par le gouvernement français. Donc Carrefour en hausse de 2,3% ce soir sur les 15 euros. Les autres places financières sont plutôt en baisse. Francfort moins 0,3, Bruxelles moins 0,2. Il y a Milan quand même qui monte de 0,4%. On rappelle le CAC 40 pratiquement stable, plus 0,03%, 5 947 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Cathy Collard-Gégère.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Vous êtes la PDG de Picard. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que Picard a dévoilé ce matin ce qu'on appelle sa nouvelle signature, c'est-à-dire le mot, la phrase que vous utilisez pour faire vos campagnes de communication. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Eh bien non, parce que cette nouvelle signature donne également un message fort de ce que vous voulez être pour l'avenir. Ce message, c'est Picard pour le bon et le meilleur. Ce n'était pas le cas jusque-là ?
Alors, ça a toujours été le cas, effectivement, mais désormais, où les Français, finalement, attendent de plus en plus des marques, qu'elles soient utiles dans leur quotidien et qu'elles apportent pour preuve de vrais engagements, il était important, effectivement, qu'on ait une signature, finalement, qui résonne comme un engagement, parce que pour le bon et le meilleur, c'est véritablement ça que l'on souhaite dire à travers cette signature. Une quête d'excellence, finalement, pour proposer des bons produits pour vous, pour les autres et pour la planète.
Vous parlez d'une quête, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas encore. Vers où vous voulez aller ?
Écoutez, on est toujours en amélioration continue. En fait, je pense qu'en commerce, il faut savoir être humble et accompagner, finalement, les changements de consommation. Vous voyez, on a vu ces derniers temps l'explosion du bio, c'était le cas chez nous, plus 30% encore cette année. Vous voyez, cette année, on va sortir par exemple le sans gluten sous la marque Picard, ce qu'on ne faisait pas aujourd'hui. On avait quelques produits, mais on va lancer notre propre marque. Donc en fait, c'est systématiquement accompagner finalement l'évolution des tendances de consommation. Et pour ça, on dit on n'est jamais arrivé au bout. On a l'humilité de se dire comprenons la vie qui va avec nos clients et comment on l'accompagne du mieux possible.
Alors ça marche depuis des années chez Picard, mais disons-le, ça marche très très fort grâce à la crise d'une certaine manière, parce que on télétravaille, on mange à la maison, on ne va pas au restaurant, on a envie de se faire des petits plaisirs, on passe donc chez Picard. Ça marche très très fort chez vous en ce moment.
Vous avez raison, puisqu'on a enregistré une croissance à hauteur de plus 15%, donc à l'instar du marché de l'alimentaire. Finalement, on a bénéficié, comme tout le monde, de la fermeture des restaurants qui fait qu'on a mangé chez soi. Et donc, et le marché des surgelés a aussi enregistré une belle progression cette année, puisque tout d'abord, les clients, finalement, enfin les Français ont découvert que c'était une vraie réponse au stockage, là où on avait peur de la maladie, peur de fréquenter les magasins et de se dire, en ayant des surgelés chez soi, ça nous permet d'espacer peut-être un petit peu nos courses. Et puis ensuite, finalement, ils ont découvert chez les surgelés, en tout cas dans les produits surgelés, d'autres bénéfices qui sont aussi une vraie réponse sur le gaspillage alimentaire, puisque finalement, on gaspille qu'à hauteur de 1% surgelé quand c'est de 20% sur les produits frais. C'est portionnable, on prend ça juste aux proportions, on est tout seul à la maison, on est quatre, bien finalement, on ajuste sa proportion avec les surgelés. Donc Picard a été aussi une vraie réponse parce qu'on sait aussi qu'historiquement, Picard, c'est la qualité, c'est l'innovation.
Est-ce que ça a permis aussi à des gens de vous redécouvrir ? Vous étiez très à la mode il y a des années, vous étiez devenu presque plus une habitude. Et puis là, certains se sont dit, tiens, je vais y retourner.
Oui, vous avez raison parce que cette croissance, elle s'est construite en fait de deux manières, sur deux piliers forts. C'est que d'une part, on a séduit des nouveaux clients qui ne nous fréquentaient pas. Et donc, ça a été l'occasion, et ces 500 000 clients nouveaux qui sont venus nous fréquenter cette année. et d'autre part, nos clients fidèles qui ont été encore plus fidèles, qui consommaient quelques familles de produits, mais pas toutes, et qui ont eu l'occasion de découvrir, par exemple, le pain, le poisson, le bœuf, enfin tous ces produits bruts qui ont enregistré une croissance exceptionnelle cette année.
Pareil, vous dites que vous voulez devenir encore plus qu'aujourd'hui un acteur de la vie locale. Est-ce que ça veut dire que dans chaque Picard, il va y avoir aussi plus de produits locaux? Est-ce qu'on va être aussi peut-être en circuit court du surgelé dans notre propre Picard, de façon peut-être à innover ou en tout cas à le personnaliser?
En tout cas, c'est ce qu'on a déjà initié l'année passée avec nos produits bio, locaux, équitables, où on a commencé dans le sud-ouest, puis dans le sud-est, à effectivement travailler avec des producteurs bio, locaux. Et donc, ce sont des produits que l'on vend que dans ces régions-là, en circuit court. Et vous voyez, cette année, c'est la Bretagne qui sera à la fête sur ce type de circuit.
Comment vous voyez l'avenir chez Picard? Parce que vous avez un plan extrêmement ambitieux de développement. Vous allez ouvrir énormément de magasins dans les années à venir?
Oui, nous avons prévu d'ouvrir 200 magasins sur les 5 années à venir et donc créer 1000 emplois grâce à ces ouvertures pour poursuivre finalement le maillage du territoire, puisque aujourd'hui, finalement, on est à 10 minutes de 60% des ménages et qu'on compte être au plus proche de chacun des Français.
Vous avez innové également pendant cette crise avec la livraison à domicile maintenant partout en France. C'était epsilonesque jusque-là, mais cette crise vous a permis d'accélérer sûrement beaucoup plus vite que ce que vous auriez fait, ce qui vous a permis également de développer votre offre numérique. Vous allez continuer d'accélérer là-dessus parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, on la garde?
Oui, absolument. Alors la livraison à domicile, c'est un vrai succès puisqu'on nous attendait effectivement là aussi dans des villes peut-être les plus reculées. Donc ça a été un vrai service pour les clients et là aussi, ça nous a permis d'offrir ce service à des gens qui ne nous fréquentaient pas. Donc d'amener Picard finalement au plus près des Français et nous allons continuer à multiplier finalement les parcours de course. Pour preuve, c'est que nous testons là effectivement la livraison à domicile via Deliveroo également sur la région parisienne.
Et ça marche, les premiers tests, les premiers retours?
Écoutez, ça marche très très fort puisqu'on enregistre de belles commandes toutes les semaines et déjà 80% des clients qui ont passé une deuxième commande. Donc ça veut dire qu'on est en train de fidéliser aussi via ce parcours.
Eh bien, merci beaucoup Cathy Collard-Gégère. Je rappelle que vous êtes la PDG de Picard. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation d'Europe 1. Nous, on se retrouve demain à 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag, émission spéciale en direct de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac. Comment dynamiser les territoires enclavés? Est-ce que la crise est une opportunité pour les villes moyennes? Vous en parlerez avec Joël Giraud, le secrétaire d'État à la ruralité.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Avec pour commencer cette question posée par Libération. Faut-il refermer les écoles du Nord aux Bouches-du-Rhône en passant par la région parisienne? Les enseignants s'alarment de voir le nombre de contaminations grimper dans leurs établissements. La fermeture des écoles ne doit intervenir qu'en dernier recours, écrivait le conseil scientifique dans son dernier avis. Y sommes-nous? Interroge Paul Quignot dans son édito. On termine avec le Figaro. 2022, l'Europe au cœur de la stratégie de Macron. En janvier prochain, la France prendra en effet pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne. Et ce sera une aubaine pour le chef de l'État à seulement 3 mois de l'élection présidentielle. Et ce sera pour lui l'occasion en pleine campagne de raviver le clivage avec le camp des eurosceptiques emmené par Marine Le Pen. À lire donc demain dans le Figaro.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et comme promis, on termine avec le foot, direction le Stade de France pour vivre les derniers instants du match des Bleus face à l'Ukraine. Cyril de la Morinerie, c'est toujours laborieux côté tricolore?
Oui, c'est laborieux effectivement. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire, toujours un partout entre les Français et les Ukrainiens, des Bleus qui poussent, mais manque d'occasion tranchante pour l'équipe de Didier Deschamps, le sélectionneur qui a fait entrer Martial il y a quelques minutes à la place de Kylian Mbappé et qui espère évidemment aller chercher dans ces dernières minutes, pourquoi pas avec Paul Pogba qui a fait son entrée tout à l'heure également, ce deuxième but pour s'imposer face à des Ukrainiens, bien qui donnent du fil à retordre aux Français. Français, contrairement au 7-1 d'il y a quelques mois. C'est une toute autre équipe donc qui est alignée ce soir par l'ancien Ballon d'Or Andriy Shevchenko. Le corner, la tête française qui va passer juste à côté, c'est dommage, là d'Antoine Griezmann qui donc a ce soir c'est son 44e match d'affilée avec l'équipe de France illégale, Patrick Vieira, donc c'est quand même énorme. Mais pour le moment, ce que l'on retiendra, eh bien, c'est une équipe de France en deuxième mi-temps qui a du mal à aller chercher ce deuxième but. Un partout entre la France et l'Ukraine. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, en direct du Stade de France pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.